avec vous sur le culte. On pourrait parfois avoir tendance à croire que apporter à Dieu notre culte, lui apporter notre louange et notre adoration, commence au moment où on franchit le seuil d'un lieu comme celui-ci. Et cela serait une grave erreur. Ça serait une incompréhension de notre part, et je dirais une incompatibilité avec ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu désire, c'est que tous les jours, à chaque instant, notre vie lui rende un culte agréable. Alors, vous savez, certains pourraient dire, mais c'est difficile, c'est compliqué. Comment vivre dans le culte tous les jours? C'est une question, frères et sœurs, d'attitude, c'est une question de cœur, c'est une question de foi. C'est une question aussi dans laquelle on apprend à nous abandonner au Seigneur en toutes choses. Et quand les choses vont bien, et quand les choses vont moins bien. Mais je crois que la parole de Dieu nous dit que Dieu est capable de changer le mal. Oui ? Toute chose concourt de ce. Amen. Donc, même dans les difficultés, on devrait toujours trouver le moyen de dire Seigneur, merci, parce que aussi par cette épreuve, je vais vivre ta gloire. Seigneur, même par cette difficulté, Seigneur, je vais vivre quelque chose de particulier. Seigneur, et je m'attends à toi parce que tu changes le mal en bien. Mais que se passe-t-il si on ne le comprend pas? Que se passe-t-il si on ne saisit pas cela? Dans le livre de Michée, il y a un procès de l'Éternel avec son peuple. Vous savez, c'est important de lire toute la parole. C'est vrai qu'il y a des livres qui peuvent nous sembler un peu plus compliqués à comprendre. Mais si on prend un tout petit peu le temps d'analyser, on voit que les mêmes problématiques qui peuvent être les nôtres ont été celles des peuples et des nations qui nous ont précédés. Donc on peut en tirer une leçon. Je dirais quelque part, ça fait jurisprudence. Alors j'aimerais ce matin nous éviter, nous, de nous trouver devant un procès devant l'Éternel. Moi je préfère me trouver devant mon Sauveur et pas devant le juge. Oui ou non? Alors, nous allons lire ensemble quelques passages de la parole de Dieu. Et le premier se trouve dans le livre de Michée. Et j'aimerais qu'on prenne du verset 3, s'il te plaît, Anthony. Michée, chapitre 6, à partir du verset 3, il dit « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce qui lui répondit Balaam, fils de Béor, depuis Chittim jusqu'à Gilgal, afin que tu reconnaisses les actes de justice de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. C'est un échange, c'est un discours qui se tient entre Dieu et son peuple, dans laquelle le peuple est appelé à s'expliquer, à s'exprimer. Et par le biais du prophète Michée, Dieu parle au peuple. Et par le biais de sa parole, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et certes, parfois, on pourrait être tenté de se dire, mais c'est dur de vivre tous les jours en respectant toutes les lois que Dieu nous donne. Et Dieu nous répond, mais quel est le fardeau que j'ai mis sur tes épaules ? Un fardeau tel qui puisse t'écraser, mon fils. Vous savez, nous, parfois, on fait, excusez-moi, une montagne d'une petite souris. Et la vision des choses est très relative. On a habité pendant quelques années sur Besançon et on était à 700 mètres d'hauteur. Chose normale, pour nous, on était au ras des pâquerettes. Et quand on a déménagé sur Reims, on nous a parlé de la montagne de Reims. 700 mètres. Une seule. Stop. Pour le reste, tout est plat. Et certains parlaient de cette montagne comme quelque chose d'infranchissable. Et je crois que parfois, nous, on a tendance à considérer les choses infranchissables dès qu'elles rentrent ou sortent de notre conception. Dieu parle à son peuple et Dieu dit à son peuple ce qu'il attend de lui. Alors, certes, le peuple se présente en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que je vais m'incliner devant le Dieu très haut ? Est-ce que je vais me présenter avec des holocaustes, avec des veaux d'Anon ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Vous savez, la première manière qu'on a et la première tendance qu'on a à vouloir servir Dieu, c'est avec des moyens. Sommes-nous devenus les serviteurs et les servantes des moyens ? On voit parfois nos moyens, on se dit c'est limité. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. D'ailleurs, je dirais que cette manière de vivre le culte est une question purement charnelle. D'ailleurs, examinez bien. Est-ce que je vais m'incliner ? C'est une question de position physique, mais pas spirituelle. Non ? Est-ce que je vais me présenter avec des holocaustes ? C'est offrir sans que ça coûte personnellement. Est-ce que c'est question d'amener devant Dieu des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Je dirais que c'est question de vivre dans l'excès, dans le mysticisme. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Et il va jusqu'au bout, l'homme en disant, est-ce que je vais donner pour mes crimes mon premier fils, mon fils aîné ? Vous savez, c'est très facile d'offrir au détriment de la vie des autres, spirituelle, morale, voire même physique. Depuis le commencement, nous voyons dans la parole de Dieu ce désir de l'homme de s'approcher de Dieu, mais en même temps des erreurs. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, non ? La parole de Dieu nous dit en Genèse chapitre 4, les versets 3 à 7, ce qui s'est passé à ce moment-là où Abel vient et offre à l'Éternel le premier de ses petits bétails avec leur graisse. Et dit le texte que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne fut pas de même pour l'offrande de Caïn. Qu'est-ce que Caïn a apporté ? Des fruits. Il n'y avait pas d'effusion de sang. Il n'y avait pas de sacrifice. La parole de Dieu nous dit que pour que le péché soit couvert, il y avait besoin que le sang soit versé. Si notre péché a été effacé, c'est parce que le sang de Christ a été versé. Excusez-moi, s'il suffisait d'une cagette d'abricots, de pêches ou de melons, ça serait bien plus facile, non ? Je dirais qu'à la fin du culte, on pourrait mettre un petit magasin à l'extérieur, fruits et légumes. Et on partirait avec l'idée qu'on a tous réglé nos problèmes avec le Seigneur. Et la semaine d'après, une autre cagette, voire deux. Et si vraiment ça a été une semaine chargée, une petite remorque. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que c'est ça que Dieu cherche de nous. Ce n'est pas ainsi qu'on peut régler nos problèmes. Il dira dans la parole de Dieu, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». et ce que l'Éternel demande de toi. Le culte que Dieu attend, les règles, les principes sont déterminés par Dieu lui-même. Je pourrais tous les matins m'inventer une manière nouvelle de louer le Seigneur. Mais est-ce que c'est ce que Dieu me demande ? Hein ? Est-ce ce que Dieu attend de moi ? Je pourrais essayer de trouver des nouvelles manières qui plaisent à Dieu, mais surtout qui me plaisent. Parce qu'en général, vous savez, on fait ce qui nous plaît parce qu'on pense que ça plaira aussi aux autres. C'est vrai ou pas ? Vous avez tous été enfants ? Rassurez-moi. Oui ? Ça arrive parfois qu'un enfant apporte un cadeau aux parents. Il l'a fait avec tout son cœur. Mes enfants, ils ne sont pas là, je peux en parler ce matin. Un jour, ils m'ont ramené une cravate. Sincèrement. Je ne savais pas comment fuir, comment éviter. Mais eux, ils l'ont fait à tout leur cœur. Alors je l'ai mis entre les quatre murs de la maison, mais jamais il est sorti de l'adresse familiale. Pourquoi ? Parce que, certes, c'était l'expression du cœur des enfants et on doit le respecter. Quel qu'il soit le cadeau que les enfants font, ils l'ont fait avec leur cœur. C'est leur manière de vous montrer leur amour. Et nous aussi, nous avons peut-être dans le passé fait des cadeaux un peu particuliers. Moi, je sais que mon père, il avait une collection de stylos. Tous les ans, un stylo. Ah, il en avait des tiroirs pleins avec moi. Maintenant, il écrit. Il m'a dit, je vais écrire un livre. Vas-y, t'as les stylos. Mais ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'il nous fait plaisir. Et en réalité, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir le plaisir de ce qu'on offre, réjouir la personne qui le reçoit. C'est vrai ou pas ? C'est pas ça la chose la plus belle ? Vous savez, parfois on peut se démunir pour faire un cadeau et on ne verra pas plus loin. Moi, de mes enfants, la chose la plus belle pour lui, c'était le papier du cadeau. Il jouait pendant des heures avec le papier. Je disais à ma femme, moi, j'achète un rouleau de papier, ça me coûtera moins cher. Et regarde, il est heureux. Non ? Mais dans ce texte, le texte dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Alors, il est de notre responsabilité d'aller chercher ce qui est bien. Et pas d'en faire à notre tête. Cain, qu'est-ce qu'il va faire ? Après l'avertissement de Dieu en lui disant, mais Cain, fais attention, attention. Tu es irrité. Cain, tu n'es pas dans un bon état d'esprit. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur voudrait que notre tête se relève. Il y a bien des choses qui nous font parfois baisser la tête. Non ? On fait tous des erreurs. Et quand on vient dans la maison du Seigneur, on se dit, Seigneur, s'il te plaît, efface. Efface l'ardoise. Seigneur, enlève. Et quand on voit le Seigneur nous inviter à regarder vers lui, est-ce que vous pensez qu'on peut regarder vers le Seigneur en regardant le sol ? Oh ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors certes, les frères et sœurs, ils sont tous beaux, et je vois la gloire du Seigneur dans leur visage, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin de relever la tête et regarder à Christ. Et là, je vois que mes fautes ont été prises, réglées. Et là, je relève la tête. Et tous les jours, nous avons besoin de vivre dans cette attitude. Je ne peux pas attendre le dimanche matin alors que je vais prendre la Sainte-Seine pour régler mes problèmes. Il y a un temps, je disais à ma femme, c'est dimanche, qu'est-ce que je dois te pardonner puisqu'on doit prendre la Sainte-Seine ? Elle me répondait, et moi, qu'est-ce que je dois te pardonner ? Vous savez, parfois, on néglige l'importance de ce qu'on fait. Parfois, j'entends, je viens prendre mon culte. Moi, je crois qu'il n'est pas question de venir prendre son culte, c'est question de vivre un culte à Dieu tous les jours. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Dieu attend bien plus que le sacrifice, l'obéissance. L'obéissance. Alors, j'ai relevé trois points dans le texte que nous avons lu. Qu'est-ce que Dieu demande ? Première chose, c'est que tu pratiques le droit. Il est question de pratiquer, de vivre. Proverbe chapitre 21, verset 3 dit « Pratiquez la justice et le droit, voilà ce qui est pour l'Éternel préférable au sacrifice. » Pratiquer, vivre, mettre véritablement en œuvre. Ésaïe 56, les versets 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils d'Adam qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner, et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. » Vous savez, très facilement aujourd'hui, on se libère, excusez-moi du mot, de la contrainte, parce que certains peut-être le vivent comme ça, d'aller au culte. Certes, on n'est plus sous la loi. On n'est pas appelé à vivre le sabbat. Mais néanmoins, je crois que le jour que Dieu a établi dès le commencement comme le jour du repos est un jour qui lui revient. On peut essayer de tout faire ce septième jour, ça ne nous avancera pas plus pour les six qui restent. Mieux garder ce jour et le consacrer à Dieu et laisser à Dieu faire son œuvre pour les jours qui viennent. Ça marche beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Regardons au Seigneur non pas comme quelque chose de dû, mais comme une pratique qui vient du cœur. Est-ce qu'on se réjouit quand on vient dans la maison du Seigneur ? Oui ? Je vous répète la question et réfléchissez bien à ce que vous répondez parce que vous verrez la suite. Est-ce que vous êtes heureux de venir dans la maison du Seigneur ? Que fait-on le mardi ? Que fait-on le vendredi ? Stop. Je ne vais pas plus loin. Romains chapitre 13, versets 7 et 8. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe. L'impôt à qui vous devez l'impôt. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous savez, dans le fait de nous retrouver ensemble devant le Seigneur, nous devons toujours considérer, frères et sœurs, que nous avons une dette avec Dieu. Mais nous avons aussi une dette contre nous. Regardez, dit le texte, de ne pas avoir d'autre dette si ce n'est quoi ? L'amour les uns pour les autres. Bande d'endettés que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous suffire de dire « Ah, j'ai payé ma dette. » Marc, je t'ai salué ce matin, j'ai payé ma dette. C'est réglé. Vous savez, c'est le trésorier. S'il va vous faire les comptes, il va dire « Eh, Emmanuel, demain, tu as à nouveau une dette. » C'est juste, mon frère. Et c'est une belle dette que Dieu nous a donnée. C'est une dette qui n'est pas lourde à porter parce que, en même temps qu'on est endetté vers les autres sont endettés envers nous. Waouh, magnifique. Je suis heureux que vous soyez endetté avec moi, je suis heureux d'être endetté avec vous. Parce que cette dette-là, c'est la seule qui, en réalité, peut changer les choses. N'est-ce pas ? Alors, il est question de pratique. Après, il est question d'amour, que tu aimes la loyauté. Pratiquer, aimer la loyauté. Le mot loyauté, la traduction du mot hébreu hesed, qui signifie aussi bienveillance et miséricorde. Il est question pour nous, frères et sœurs, de pratiquer, de mettre en œuvre, d'aimer, faire du bien, d'être bienveillant. C'est question d'un contrat entre deux personnes, c'est question de pratiquer, de mettre en avant l'amour, la grâce, la fidélité, la bonté et aussi la piété. Parce que le Seigneur nous demande de le faire seulement, non. Matthieu chapitre 9, verset 13 dira « Allez apprendre ce qui signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Ça veut dire que le Seigneur me demande d'aimer ceux qui encore, il ne l'aime pas et certainement, il ne m'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'encore, ils n'ont pas découvert l'amour de Christ. Il est question pour chacun d'entre nous d'apprendre à vivre dans cette loyauté, à l'aimer et prier pour le salut des âmes. Amen. Nous avons là aussi une part dans ce culte parce que qu'est-ce qui produit une grande fête dans le ciel ? Dites-moi. Vous avez déjà lu la Bible en entier ? Oui ? Combien de fois ? Stop. La question la plus importante, qu'est-ce qui permet qu'il y ait dans le ciel une grande fête ? Ça, c'est quelque chose qui doit être, excusez-moi, 24 heures sur 24. C'est pourquoi la terre tourne et quand un côté il fait nuit, il dorme, l'autre côté il loue. Dieu a bien réfléchi à l'histoire, hein ? Non ? Qu'est-ce qui réjouit ? Qu'est-ce qui fait que dans le ciel, il y a grande fête ? Si vous lisez toute la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a une chose. Dans le ciel, il y a tout. Il y a tout dans le ciel. Il n'y a rien qui manque. Mais il y a une chose qui se produit quand sur la terre, quelqu'un passe de la condamnation au salut. Il dit le texte, dans le ciel, il y a grande fête. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons, par le témoignage, par la prière, par l'évangélisation, par aussi notre attitude, permettre que dans le ciel, il y ait toujours une grande fête devant le Seigneur. Parce que des âmes se tourne vers Dieu. Et c'est de notre responsabilité. Certes, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Mais je crois que vous avez déjà lu cette question. Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, il entendra cette question. Vous vous rendez compte ? Le Créateur du ciel et de la terre se pose la question. Qui enverrai-je ? Encore aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à être envoyés. Qui enverrai-je ? Et c'est là que Ésaïe a une vision incroyable, glorieuse. Qui aimerait avoir la vision d'Ésaïe ? Hein ? Tous ? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la vision d'Ésaïe et rentrer à la maison, cool, tranquille, en se disant « Chouette, aujourd'hui j'ai eu la vision d'Ésaïe, demain je vais avoir celle de Jérémie ». Quand on veut avoir la juste vision des choses, forcément, il y a des choses de notre vie qui ressortent et qui demandent à être réglées. Quand Ésaïe s'est retrouvé devant la vision de l'Éternel, il s'est incliné, il s'est humilié et il a commencé à parler du péché qui était sur ses lèvres. Est-ce qu'on est prêt à accepter que Dieu nous montre ce qui ne va pas dans notre vie ? Oui ? Mais le but, ce n'est pas juste de nous le montrer, c'est aussi de le changer. Qui est prêt à dire, Seigneur, ce matin, je veux que dans mon cœur, dans ma vie, les choses anciennes n'aient plus de place. Seigneur, je veux que ma vie soit complètement transformée, Seigneur. Il est question pour nous d'accepter de rentrer dans cette vision de Dieu. Alors la loyauté fait partie des valeurs qui nous différencient aussi du monde. Romains chapitre 1, versets 28 à 32. Ésaïe se prosternera devant Dieu et Dieu enverra un ange prendre avec une pincette un charbon pour déposer sur les lèvres d'Ésaïe et pour le purifier. Sommes-nous prêts à nous laisser purifier par le Seigneur? Qu'est-ce qui nous fait faute? Nos lèvres, nos pensées, nos mains, nos pieds. Croyez, le Seigneur sait comment traiter chaque problème. Et je vous rappelle que quand vous regardez à la croix, le sang a coulé du corps du Seigneur. Ses mains ont été percées pour que nos mains soient guéries et délivrées du péché. Ses pieds ont été percés pour que notre marche avec Christ soit digne de Christ. Son dos a été fouetté pour que le péché qui gravait sur nos épaules soit enlevé. Son front, là aussi le sang a coulé à cause des épines, pour que nos pensées soient transformées. Sa vie tout entière a été brisée à la croix pour vous et pour moi. Et nous approcher du pain et du vin, ce n'est pas juste, excusez-moi, je prends mon culte. Je rends un culte à Dieu. Je rends un culte à Dieu. Tous les jours de ma vie, je rends un culte à Dieu. Romains chapitre 1, verset 28 à 32 dit « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le pratiquent. Vous comprenez pourquoi nous, on ne peut pas faire tout cela? Parce qu'autrement, on serait assimilé. Et il est question pour nous de faire la différence. Matthieu chapitre 7, verset 7, pardon, Matthieu chapitre 5, verset 7 au verset 12. Heureux les miséricordieux, car êtes-vous heureux? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Drôle de manière pour être heureux, hein ? Tu veux être heureux ? Tu dois prendre des cailloux. Tu veux être heureux ? Ben, tu vas entendre parler mal de toi. Ça te rend heureux ? Non ? Pourquoi ? Vous savez, la logique du monde n'est pas du tout la logique de Dieu. Analysez bien cela. Regardez, la pensée du monde n'est jamais la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est bien plus. Amen. Il est question pour nous, frères et sœurs, de ne pas oublier le troisième point. Nous avons dit quoi ? Premier point, c'est que tu pratiques. Deuxième, que tu aimes la loyauté. Troisième point, que tu marches humblement avec ton Dieu. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, dira Luc chapitre 14, verset 11. Est-ce qu'on a envie de marcher avec le Seigneur ? Vous savez, quand on est dans la présence du Seigneur, on ne peut que se sentir encore plus petit. Quand on se sent grand et quelque part digne d'être dans la présence du Seigneur, je crois qu'on n'est même pas rentré dans les parvis. Et une question d'humilité. Alors, je voudrais juste terminer par deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 4, versets 1 à 10. Parce que peut-on marcher avec Dieu et avec le monde ? Être ami de Dieu et du monde. Regardez ce qu'il nous dit Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerraillent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain ? Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, il y a un mot que j'ai eu difficulté à prononcer. Sinon, de vos passions qui guerraillent dans vous. Merci, merci. Je savais que vous aurez sorti le juste mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ceux qui vivent constamment avec la guerre en tête. Et si un jour il y a de la paix, ce n'est pas possible. Il faut trouver un conflit quelque part, et s'il n'y en a pas un, on se l'invente. Est-ce que dans notre cœur, y a-t-il encore ça ? Tant que ça dépend de vous, soyez en. Ça, c'est la logique de Dieu. On ne peut pas empêcher qu'il y ait parfois des histoires où que les gens ne soient pas d'accord avec ce qu'on pense. Mais la Bible dit, tant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Au service militaire, j'avais un jeune qui était arrivé et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés le chercher, celui-là. Parce qu'il avait la guerre en tête, lui. Il voulait partir faire partie des commandos, mais il n'avait pas la taille. Après, il voulait faire parachutiste, mais ses jambes étaient tellement arquées, le pauvre, au premier saut, il se serait cassé en deux. Et après, il cherchait un autre truc encore plus. J'ai dit, mais t'as la guerre en tête, toi. Même la nuit, il était agité. Vous savez, la nuit, je faisais la ronde pour voir si tout le monde était resté bien dans son lit, il n'y en a pas qui ait fait le mur. Hein? Et lui, il était agité, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Je dis, oh là ! Duracell. Alors, tant qu'on est dans le monde, c'est une chose. Mais quand on est en Christ, notre cœur ne devrait ni avoir ce type de pensée, et encore moins ce type de discours, puisqu'il est question de marcher. J'aimerais terminer par cette parole qui se trouve en Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit cette parole pour certaines personnes qui persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Ça, c'est pour nous rappeler le culte que Dieu veut qu'on lui rende. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Quand nous rendons un culte à Dieu, un culte qui lui est agréable, vous savez, certes, on est là pour donner à Dieu, mais est-ce que vous pensez que Dieu nous renvoie à la maison les mains vides ? Est-ce que Dieu vous a jamais renvoyé les mains vides ? Dites-le, confessez-le avec votre bouche. Jamais. Quand on rend à Dieu un culte qui lui est agréable, on repart de ce temps de culte avec quelque chose qui est indescriptible. On pouvait être chargé, excusez-moi, comme une mule, on repart léger comme un flocon de neige. Oh, poétique. Combien de fois, moi, j'ai pu aller faire les réunions et j'étais malade comme un cheval et je suis ressorti guéri. Si j'avais dû m'écouter, « Oh Seigneur, donne-moi le thermomètre. Seigneur, tiens, prends le pouls. » Certes, il y a des moments où on est fatigué, je ne dis pas avec ça que vous n'avez pas le droit de vous reposer. Comprenez bien, comprenez bien. Mais faites attention, parce que si c'est régulier, peut-être que l'ennemi a trouvé la manière de vous arrêter. Et vous savez ce qu'il faut faire pour régler le problème ? Ne l'écoutez pas. Faites ce qui est bien. Faites ce qui est juste. Mettez votre confiance en Dieu. Vous savez, on croit toujours dans la prière pour les malades. Hein. Et Dieu guérit encore. Non. Et Dieu guérit encore. Alléluia. Et il est question pour nous, frères et sœurs, de pouvoir rentrer comme ce pauvre homme qui était mal considéré, mal vu, mais il dit le texte, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Quand on rend un culte à Dieu qui est agréable, quand on a cette attitude de marcher humblement avec le Seigneur, frères et sœurs, forcément, on rentre chez nous justifié par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde, par sa grâce. Alors, quelles qu'ils soient les difficultés que nous traversons, n'oublions jamais de rendre à Dieu le culte qui lui est agréable. Vous savez, vous avez entendu ce que Dieu attend de vous. Est-ce qu'on peut relire juste le texte ? Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît. Garde-nous, Seigneur, de tomber dans le piège, Seigneur, de vouloir te rendre un culte charnel. Garde-nous de tomber, Seigneur, dans le piège de devenir comme des religieux, Seigneur, qui montrent une façade quand ils sont devant les autres, mais dans la réalité de leur vie, Seigneur, il n'y a rien ou pas grand-chose de spirituel. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît, de juger les uns et les autres. Mais donne-nous la bonne attitude qui est celle, Seigneur, de venir avec humilité devant toi et d'apprendre chacun d'entre nous à rendre, Seigneur, des comptes de notre propre comportement. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'agir comme ta parole nous le demande pour que le culte qui t'est rendu te soit agréable à toi, Seigneur. Et parce que, Seigneur, Nous reconnaissons, Seigneur, nos limites, parce que nous reconnaissons, Seigneur, notre besoin de toi, parce que nous reconnaissons que personne d'autre est digne de louange et d'adoration. Il n'y a que toi. Seigneur, toi, tu es ce Dieu, mais tu es aussi ce Père qui comble notre vie, Seigneur, de ce dont nous avons véritablement besoin. Être justifié, être pardonné, être relevé. Seigneur, merci de nous aider tous les jours de notre vie, Seigneur. Accomplir pleinement, Seigneur, ce rôle. Garde-nous, Seigneur, de vivre notre foi, Seigneur, comme une tradition. Garde-nous, Seigneur, de devenir, Seigneur, juste des pratiquants de pratique. Mais Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes spirituels, remplis de l'Esprit. Parce que plus nous recherchons la vie de l'Esprit, plus nous découvrons, Seigneur, ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Et encore ce matin, tu guéris les cœurs, Seigneur. Seigneur, si quelqu'un vit constamment, Seigneur, dans la querelle, si quelqu'un, Seigneur, encore n'a pas pu se débarrasser de ce problème, Seigneur, toi, tu es fidèle et bon pour changer son cœur parce que tu l'aimes, Seigneur. Seigneur, si cette personne, elle est là ce matin, si cet homme ou cette femme, ils sont là ce matin, Seigneur, et chacun de nous, nous avons nos défauts, Seigneur. Si nous venons à toi, Seigneur, ce matin, avec un cœur sincère, tu es capable de nous transformer, de nous justifier, de nous changer, Seigneur. Seigneur, le Père n'est pas venu à te dire « J'ai fait tout mon mieux, mais je ne suis pas arrivé. » Il a dit « Seigneur, aie pitié de moi. » Seigneur, encore ce matin, nous te disons « Seigneur, aie pitié de nous. Use de compassion vers ton peuple et garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de oublier ou de mettre de côté ce que toi, tu attends de chacun d'entre nous. Qu'à toi soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Loué soit Dieu. Pendant que l'équipe remonte pour un dernier chant, j'ai juste deux informations à vous donner. La première, c'est les réunions de semaine. Je vous rappelle que mardi,